Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Dorian.
Bonsoir Mathéo. Bonsoir Émilie.
Bien, comme vous le savez, ce soir, nous invitons Émilie Cario pour ce live que je vais aller chercher dès à présent. Comme ça, nous pouvons commencer.
Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, on attend que la connexion se fasse avec... Et voilà, c'est parfait. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Ça va, ça va ? Quoi de beau ?
On travaille toujours à l'Assemblée nationale.
Ouais. T'es à l'Assemblée, là ?
Oui.
Ok. Bon. Comment ça s'est passé aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, c'était un enchaînement de réunions pour préparer toutes nos prises de position dans la semaine à venir, surtout en cours.
Ok, et ça s'est bien passé ? Vous êtes arrivés à vous coordonner sur les prises de position ?
Il y a beaucoup de travail. On est un petit groupe parlementaire maintenant. Mm-hmm. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de travail de coordination pour qu'on soit bien présent sur tous les sujets.
Ok, super. Donc là, c'était une réunion de groupe concrètement aujourd'hui ?
Non, c'est les réunions de groupe, on les fait le mardi.
D'accord.
Un peu tous les groupes parlementaires font ça, en fait. C'est le mardi que les...
Okay.
Généralement, le mardi matin est dédié aux réunions de groupe formelles. Mais
d'accord.
Après, il y a une série de réunions techniques qui se déroulent au fil de l'eau.
Super, super. Voilà. Bon alors, quelle est l'actualité à l'Assemblée nationale en ce moment ? Quels sont les sujets sur lesquels tu travailles plus particulièrement ?
Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, bien évidemment, moi, je suis à la commission des finances. Mmh. Donc, je travaille beaucoup sur tous les sujets de plan de relance en ce moment. Toutes les aides aux entreprises, les aides directes qu'on a versées, qu'on va verser. Mmh. Et puis, toute la réforme fiscale à venir aussi, de baisse de fiscalité qui a été prévue par le gouvernement dans ce plan de relance. Donc ça, c'est un travail qui nous occupe beaucoup. Par ailleurs, moi, je viens de rendre un rapport... la semaine dernière, le rapport d'application de la loi fraude. En 2018, j'étais rapporteure d'un projet de texte sur la fraude fiscale et la délinquance.
D'accord.
Ça a été l'occasion d'ouvrir le verrou de Bercy, le fameux verrou de Bercy, oui, dont on entendait beaucoup parler, qui était en fait, le verrou de Bercy, c'était le monopole qui était entre les mains du ministre du Budget pour ouvrir toutes les plaintes pour fraude fiscale. Mmh. C'est une atteinte assez grave finalement à la séparation des pouvoirs, mais qui existait depuis 100 ans. Donc j'avais été rapporteur de la mission d'information pour essayer de réfléchir à une réforme de ce système pour arriver à un système plus transparent, plus démocratique et puis qui respecte la séparation des pouvoirs. Donc on avait abouti à un rapport qui a donné lieu à une réforme qui était dans cette loi-là. Et donc la semaine dernière, on a dressé le bilan de cette loi qui contenait aussi plein d'autres outils de lutte contre la fraude financière.
D'accord.
Et notamment la création d'une police fiscale rattachée à Bercy, et puis tout un tas de nouveaux outils juridiques et techniques aussi, numériques, pour lutter contre la fraude.
D'accord, voilà. Super.
C'est important parce que, notamment, je souligne dans ce rapport le rôle très important que joue le parquet national financier aujourd'hui, dans la lutte contre la fraude et la délinquance financière, notamment les escroqueries, mais enfin, tout ce qui est fraude fiscale, délit de blanchiment et la corruption, bien évidemment, mais aussi tous les délits boursiers. Et vous savez, aujourd'hui, le parquet national financier a été mis en cause avec un rapport d'inspection qui a été demandé au cœur de l'été, qui a été rendu la semaine dernière. Là, de nouveau, une enquête administrative qui est relancée. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on a pu voir avec... avec notamment Éric Diard qui travaille sur ce rapport avec moi, c'est la grande compétence et technicité qu'a développé le parquet national financier. Il a été créé en 2013 et aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu le vaisseau amiral de la lutte contre la fraude financière et fiscale. Donc, il est important de bien conserver ce parquet qui a pu se spécialiser et donner des réponses pénales à des délits qui avaient du mal à être dénoués au point de vue pénal jusqu'à présent. Donc ça, c'est aussi un travail sur lequel je passe beaucoup de temps. Voilà.
Oui, j'imagine, oui. Et donc, le rapport a été rendu. C'est un rapport que tu as rendu au gouvernement, n'est-ce pas ?
Il a été rendu en commission des finances. La commission des finances. La commission, après, elle approuve la publication du rapport ou pas. La publication a été approuvée à l'unanimité. Donc, c'est un rapport qui est en ligne. Alors, les rapports d'application des lois, donc c'est assez important parce qu'en fait, une fois qu'on a voté une loi, finalement, il y a beaucoup de mesures qui dépendent des mesures d'application, notamment les décrets d'application. Et c'est important de voir que finalement, le gouvernement, donc l'exécutif et puis les administrations font bien leur travail pour mettre en application les lois qu'on a votées. Donc, un rapport d'application de la loi, généralement, il est demandé au moins 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Et après, on a un peu de temps pour le rendre. Mais c'est un premier rapport qui alors évidemment, en un an de temps, les pratiques, elles ont commencé à évoluer, mais les fruits, on les aura dans les années qui viennent. Mais c'est important que le Parlement vérifie que les taxes d'application sont bien pliées, que les pratiques administratives ont changé,
bien sûr,
pour voir si on va dans le bon sens.
C'est d'ailleurs l'un des rôles principaux du Parlement que de contrôler l'action du gouvernement.
Le contrôle du Parlement, qui est souvent, parce qu'on est législateur, mais on contrôle aussi l'action de l'exécutif.
Bien sûr.
Et donc, c'est un rôle qui est souvent minimisé, mais c'est vrai que la majorité à laquelle j'appartenais avait pour volonté, dès le début, de renforcer ce rôle de contrôle. On ne l'a pas assez fait. Et notamment, on souhaitait mettre en place à l'Assemblée nationale un service d'évaluation. Parce qu'à la Commission des finances, on n'a pas de service qui nous permette de chiffrer les réformes qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en collaboration avec Bercy, que Bercy nous donne des chiffres ou ne les donne pas. Donc, parfois, c'est compliqué. Alors, ce qu'on avait fait à un moment donné, c'est qu'on travaillait avec des chercheurs aussi, notamment de l'Institut des politiques publiques, de l'OFCE. On a pu commander aussi des études à des chercheurs, notamment des économistes ou des sociologues ou de l'interdisciplinarité, pour mieux valider notre travail. D'autres parlements ailleurs dans le monde disposent d'outils techniques qui leur permettent de travailler là-dessus. Et c'est vrai que ça va dans le sens du renforcement du Parlement, d'avoir ses propres outils pour travailler. Donc moi, je pense que ce serait essentiel qu'on recommence ce travail-là. À un moment donné, François de Rugy était d'accord pour qu'on se dote d'un service de prospective économique, de chiffrage et de statistiques. Finalement, ça ne s'est pas fait. Moi, je trouve ça dommage. Voilà. Quand on compare le Parlement français au Parlement américain, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour travailler en toute indépendance. Parce que ce qui compte dans une démocratie, c'est bien l'indépendance des pouvoirs.
Des pouvoirs, bien sûr.
Que chacun puisse équilibrer l'autre. Voilà.
Tout à fait.
Donc, voilà, en gros, alors aujourd'hui, le plan de relance nous occupe beaucoup aussi. Donc, il y a beaucoup de mesures d'urgence qui avaient été prises dès le début de la crise du Covid pour essayer de contrer vraiment les effets du confinement qui a été quand même mis sous cloche de toute notre économie pendant 2 mois, avec un redémarrage vraiment très progressif, avec des secteurs de l'économie qui n'ont toujours pas redémarré, notamment dans le tourisme, etc. Et donc, dès le début de la crise, on avait mis en place des aides d'urgence qui sont passées dans des lois d'urgence pendant le confinement. Et puis, on en a eu plusieurs, on en a eu 3. Là, maintenant, on a le plan de relance. Alors, notamment, ça a été le chômage partiel. Le fait que l'État prenne en charge des salaires que ne pouvaient plus payer les entreprises parce que l'activité s'arrêtait, c'était une mesure très importante pour ne pas que les entreprises licencient sec comme ça des personnes et qu'on passe ce temps de confinement, de mise sous cloche vraiment, et qu'on ne perde pas les compétences, que les salariés ne perdent pas leur emploi et qu'il y ait une continuité. Mmh. Donc là, maintenant, on est sur le plan de relance qui est censé voir la suite, relancer l'économie. Alors, les sphères écologistes n'aiment pas trop parler de plan de relance parce qu'ils préfèrent parler de transition, plan de transition.
D'accord.
Nous, c'est qu'à l'occasion de ce plan relance, on veut faire de la transition écologique. Mais pour ça, il va falloir aussi cibler un peu l'argent qu'on est en train de mettre dans cette relance. Alors, le plan de relance, c'est d'une part, il y a des mesures d'aide directe, mais il y a surtout des mesures d'aide indirecte avec de la baisse de fiscalité. Dans les 30 milliards d'argent nouveau que met l'État français sur la table, parce que sinon, il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, il y a des qui sont déjà dans les tuyaux. Donc ça fait les fameux 100 milliards dont on parle. En tous les cas, il y a 30 milliards d'argent nouveau, c'est surtout des baisses d'impôts et notamment des impôts de production. Alors les impôts de production, en fait, ce sont toutes les taxes qui pèsent notamment sur le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée des entreprises. Et notamment, l'impôt qui a été choisi, c'est la contribution de la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui est un impôt qui avait été mis en place quand la taxe professionnelle avait été supprimée. D'accord. Donc le gouvernement a choisi de mettre un gros effort fiscal sur cet impôt-là, donc à hauteur de 20 milliards en 2 ans. Mais en fait, ce sera une baisse d'impôt qui sera pérenne de 10 milliards par an. En gros, on va diviser par 2 les taux d'imposition de la CVAE. Alors bon, c'est vrai que les impôts de production sont très critiqués parce qu'ils pèsent en compte le résultat de l'entreprise. Et finalement, c'est quand même moins vertueux que de faire un impôt sur le résultat, un impôt sur le bénéfice, comme l'impôt sur les sociétés. Cela étant, la CVAE, le problème, c'est que là, en faisant ce choix-là, le gouvernement, il choisit de cibler les grandes entreprises et les entreprises dites de taille intermédiaire. Mmh. En gros, on ne cible pas les TPE, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, qui ne payent pas la CVAE parce qu'en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires, on ne la paye pas. D'accord. Et en dessous de 500 000 et 50 millions de chiffre d'affaires, donc le segment des PME, paie très peu de CVAE parce qu'il y a un barème progressif qui est compensé par l'État. Attends, c'est déjà. Donc, on voit que là, en faisant ce choix-là, on va manquer une partie de la cible. Une partie de la cible de l'économie qui est en souffrance aujourd'hui, qui sont nos PME et nos TPE.
Bien sûr.
Là, il y a des choses à revoir. Et puis, le fait de choisir finalement que dans le plan de relance, on fait surtout de la baisse de fiscalité et pas de l'aide directe à des entreprises, du coup, on s'interdit aussi de cibler l'argent public qu'on va mettre sur la table. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui ne rentrera pas. On ne peut pas le cibler vis-à-vis d'entreprises qui sont plus en souffrance que d'autres. Et là encore, on retrouve sur le problème de la CVAE qui est plus majoritairement payée par les grandes entreprises. Et au sein des grandes entreprises, ce sont les banques et le secteur financier qui payent le plus de CVAE. Donc, ça veut dire que le chèque de l'État, l'aide la plus massive, on va la faire vis-à-vis de ces entreprises-là, quand bien même ces entreprises-là ne sont pas celles qui ont subi de plein fouet la crise du Covid. Aujourd'hui, quand on regarde les baisses de chiffre d'affaires, même des grandes entreprises et du CAC 40, c'est plus dans les autres segments de l'économie que dans la finance qu'on a des pertes aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce plan de relance, il manque pour partie sa cible du côté des entreprises et il manque pour partie sa cible du côté des ménages, puisque là, pour le coup, on n'a pas vraiment de mesures massives d'aide aux ménages et d'aide à la consommation. Donc, le gouvernement, il a fait un choix de relance de l'offre et pas de la demande. Et le problème, c'est que ça marche bien en période de croissance, sauf que là, on a une crise. On a eu une crise sanitaire qui est en train de se traduire en une crise économique et sociale. Et donc, il faut quand même prévoir des aides à des ménages qui étaient finalement un peu dans la précarité et qui sont en train de tomber dans la pauvreté. Alors ça, on a du mal à avoir des statistiques, mais l'Observatoire, pas de la pauvreté,
des inégalités,
voilà, a commencé à faire remonter des alertes à ce sujet-là, mais aussi pas mal d'ONG et d'associations qui font de l'aide caritative et qui voient le nombre de bénéficiaires augmenter. Il faut qu'on arrive à objectiver ce phénomène-là, mais en tous les cas, on sait qu'il y a quand même une urgence et que donc, il ne faut pas oublier l'aide aux plus précaires dans le plan de relance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, tous ces sujets, nous, on les travaillera dans le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité et on proposera des amendements dans la loi de finances pour enrichir ce plan de relance de ça et aussi d'autres sujets. Et notamment, vous savez, on avait beaucoup parlé au moment de la loi de finances qui était passée en juillet, des éco-conditionnalités. En fait, ça veut dire quand on fait des aides directes aux entreprises, est-ce qu'on peut se permettre de continuer à subventionner des industries polluantes, des industries qui licencient, qui ne sont pas vertueuses sur le plan fiscal, Mmh. Et donc, nous, on avait prévu une série d'amendements pour mieux cibler les aides et faire en sorte que sur les aides directes, notamment les apports en capital qu'on a fait à certaines entreprises, donc de l'État qui rentre au capital mmh. de l'entreprise pour les sauver, type Air France ou autre, mmh. qu'on accompagne ça d'un certain nombre de conditionnalités en termes de, notamment de transition écologique, de maintien de l'emploi, de formation professionnelle, éventuellement de politique salariale, et puis bien évidemment de politique de distribution responsable, c'est-à-dire que quand on a des aides de l'État, ben, cette année-là, on ne distribue pas du dividende, et puis notamment aux personnes physiques, hein, aux actionnaires personnes physiques, et puis bien évidemment absence de filiales dans les paradis fiscaux. Tous ces amendements ont été refusés en bloc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État met beaucoup d'argent public sur la place, mais refuse en fait complètement qu'on porte des conditions à cet argent public. Ça veut dire qu'on est dans un État libéral, mais qui se sert de l'argent public. Voilà. Oui. Un libéralisme qui est bien content d'avoir du keynésianisme, mais en même temps qui ne veut aucune condition à ça, ce qui est quand même assez dérangeant.
Et économiquement, est-ce qu'on peut justifier ce choix dans l'absolu ?
Alors, ce qui est justifié, ce que le discours du gouvernement, c'est de dire, mmh. nous, ce qu'on veut, c'est apporter des mesures de compétitivité. On ne veut rien contraindre. On ne veut pas rigidifier l'investissement. Mmh. Et on veut finalement faire des aides de, enfin, avoir une politique de compétitivité. Alors, c'est vrai que la baisse des impôts, c'est mettre en place une politique de compétitivité. Mais ça, ça a un effet sur le moyen long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais baisser les impôts de production aujourd'hui que dans un an, j'ai résolu mon problème de chômage et que j'ai déjà relocalisé. Ça, ça aura un effet sur le long terme.
Ça prend plus de temps, bien sûr. Alors, mm-hmm.
je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je dis juste qu'en attendant, ça ne suffit pas. Et qu'en l'occurrence, rien ne nous garantit qu'on ait ces effets de relocalisation. Je vous donne un exemple. Quand on regarde finalement sur un temps plus long les effets du CICE, par exemple, mm-hmm. ça a créé très peu d'emplois. Ce qui veut dire, parce qu'en fait, par rapport à la masse d'argent que vous déversez sur toutes les entreprises concernées, finalement, il n'y en a que très peu qui vont relocaliser ou qui vont recréer de l'emploi. Du coup, chaque emploi créé vous coûte très, très peu. Parce que vous avez beaucoup d'effets d'aubaine et on en aura beaucoup sur la CVAE, c'est évident. Donc, voilà, on ne peut pas se satisfaire de ça. Ça c'est sûr. Compétitivité, oui, mais ça c'est du moyen terme. Là, on est dans une urgence et on ne répond pas à cette urgence-là. Notamment, y a un segment qui est vraiment trop oublié, à mon sens, c'est quand même les petites entreprises et les indépendants, les commerçants, les artisans, qui eux souffrent beaucoup, notamment toute cette économie qui accueille du public et qui du coup se retrouve vraiment exempte parce qu'il y a une chute abyssale des chiffres d'affaires. Et là, aujourd'hui, il reste quoi ? Il reste les plans garantis d'État qu'ils ont pu avoir et qu'ils vont devoir rembourser parce que toutes les échéances qui avaient été repoussées, finalement, là, elles vont se réactiver. Mmh. Et puis, il y a eu l'aide de 1 500 euros, mais bon, on voit bien que c'est quand même très, très limité.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un grand sujet. Et en termes de calendrier, est-ce qu'on a une idée du calendrier pour l'adoption de ce plan de relance ?
Alors, la plupart des mesures donc, sont dans la loi de finances. Mmh. La loi de finances, elle est présentée le 28 septembre et puis elle sera discutée jusqu'à la fin de l'année. La loi de finances, elle prend 3 mois finalement à être adoptée hein, parce que mm-hmm. passe évidemment à l'Assemblée puis au Sénat, elle revient à l'Assemblée.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc au final, tous les ans, elle est adoptée vraiment fin décembre.
D'accord.
Pour une application au 1er janvier. Mm-hmm.
D'autres sujets sur lesquels tu es mobilisée en ce moment ?
Alors, en ce moment, notamment la semaine dernière, nous étions sur la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, donc, la loi dite ASAP, mm-hmm. et elle passera dans l'hémicycle la semaine prochaine. Alors, sur cette loi ASAP, moi, j'étais donc une commission spéciale a été créée parce qu'elle touche à plein de sujets différents. Donc, dans D'accord. ces cas, les députés de plusieurs commissions, donc les affaires éco, commission des lois, commission des finances, etc., peuvent être réunis dans une seule commission. Donc moi, j'étais membre de cette commission spéciale. Alors là, c'est une loi qui est vraiment une loi de dérégulation, où sous couvert de simplification de l'action publique, on est en train de supprimer beaucoup de dispositifs de contrôle qui sont quand même mmh. nécessaires au fonctionnement soit de l'économie, soit de la démocratie. Alors, je vous donne un exemple. La semaine dernière a été supprimée par amendement une commission dont le rôle, une commission de contrôle du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, dont le rôle est de, et de contrôler finalement si le réseau postal et numérique dessert bien le territoire avec les cahiers des charges qui montent en puissance. Donc ça a été supprimé d'un coup de main comme ça en amendement. Le gouvernement, par ailleurs, dans son texte, propose de réformer des choses quand même assez importantes, des institutions importantes que sont les chambres d'agriculture, Office national des forêts, ONF, par ordonnance et pas par projet de loi. Donc nous, on n'est pas d'accord. Non, on ne réforme pas par ordonnance. On veut savoir ce qui se passe en toute transparence, y compris que le dialogue social se passe réellement au sein de ces institutions-là. Le gouvernement, la semaine dernière, dans ce projet de loi, par amendement, a réassoupli le code des marchés publics, a décidé aussi, et ça c'était dans le projet de loi initial, de laisser les préfets, par exemple, donner des autorisations de construction d'installations classées avant même que les autorisations environnementales soient déposées. Donc tout ça, ça fait des sujets assez explosifs, tous condensés dans un projet de loi, donc sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé la semaine dernière, et qui seront dans l'hémicycle la semaine prochaine. Donc notre groupe est très mobilisé là-dessus, d'autant plus que tout le titre 3 de ce projet de loi est dédié à l'environnement et à l'allègement de normes environnementales. Il y a des sujets sur la gestion de l'eau, etc., etc. Donc vous voyez, ça fait aussi des sujets d'actualité assez brûlants. Cette semaine, on a le projet de loi de programmation de la recherche, programmation pluriannuelle de la recherche. Donc sur ces sujets, au sein de notre groupe parlementaire, ceux qui sont plus mobilisés, ce sont Cédric Villani et Sébastien Nadeau. Voilà. Là aussi, on a prévu un certain nombre d'amendements parce que aujourd'hui, ce qui est prévu dans ce projet de loi, vous savez, la recherche française, elle a besoin de moyens. Enfin, je veux dire que si on veut éviter le décrochage par rapport à notre pays, il faut absolument qu'on renforce notre recherche. Donc, il y a quand même un apport financier assez substantiel qui est prévu dans cette loi, avec une programmation de plusieurs années. Le problème, c'est que c'est trop lent et le démarrage est beaucoup trop lent avec des effets dans le quinquennat suivant, voire celui d'après. Donc, nous, on souhaiterait accélérer la courbe pour renforcer notre recherche au mieux et au plus vite.
Super.
Voilà, on va avoir la semaine prochaine aussi le projet de loi sur les cette semaine en commission, le projet de loi sur les néonicotinoïdes. Y a vraiment beaucoup de sujets en cours. Et puis, au sein du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, nous préparons aussi notre niche parlementaire. Alors, c'est quoi une niche parlementaire ? Les groupes de minorité, enfin, les groupes d'opposition et de minorité ont droit à des journées dédiées à l'examen de leur propre texte de loi. Parce que sinon, les textes, ils proviennent du gouvernement. Et donc, on a prévu ça le 8 octobre avec un certain nombre de sujets comme l'IVG, il y a le bien-être animal, il y a le sujet des entrepôts d'Amazon, type Amazon, pour notamment mieux les fiscaliser, un sujet sur le congé parental. Enfin, il y a une multitude de sujets aussi, le vote à 16 ans. Enfin, donc, des sujets sociétaux assez larges qui illustre bien en fait les champs sur lesquels notre groupe écologie, démocratie,
souhaite intervenir,
sommes investis.
Super, c'est très intéressant en effet. Et du coup, ça c'est le 8 octobre. Désolée, je dois juste ouvrir la porte pour le chat. Sinon, hop, j'avais oublié qu'il avait ses croquettes ici. Désolée. Donc ça c'est pour l'actualité parlementaire. Et est-ce qu'on peut passer du coup à la seconde partie de l'interview si ça ne dérange pas? Où il s'agit de parler de toi, plus particulièrement, et de comprendre un peu quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, sachant que tu as quand même un parcours un peu, pas tout à fait lisse au sein de l'Assemblée nationale, parce que tu as quitté La République En Marche pour rejoindre donc et créer, co-créer, n'est-ce pas, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez intéressant aussi pour nous et pour les auditeurs de savoir un peu quelles ont été notamment les motivations pour quitter. Je voulais aussi savoir si tu pouvais nous expliquer aussi quel était le rôle de WIP, qui est un rôle que tu as occupé pendant plusieurs mois, plusieurs années même, pour qu'on explique un peu aux auditeurs comment ça fonctionne au sein d'une commission en tant que WIP d'un groupe.
Alors, mon parcours, déjà, avant, parce que moi, mon premier mandat, c'était celui de 2017, donc en tant que député, je n'avais jamais été élu avant. Donc, en fait, j'ai un parcours dans l'administration fiscale. Moi, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Je suis rentrée dans l'administration fiscale et j'ai commencé à travailler dans le contrôle des multinationales, des grandes entreprises, notamment dans le secteur financier, banque assurance, puis dans un secteur sur les multinationales qui avaient le droit de consolider leurs résultats mondiaux, ce qui m'a menée à faire du contrôle fiscal au point de vue international, à aller dans d'autres pays du monde. Ensuite, j'étais chef de service. Bon, bref, je suis entrée à la direction de la législation fiscale en 2009. Donc là, du coup, j'étais en charge d'un service qui faisait de la législation fiscale.
D'accord.
Puis, je suis partie en 2011, début 2011, à l'autorité des marchés financiers dans un service d'enquête pour les délits d'initiés, délits boursiers, etc. À l'époque, j'ai fait la campagne d'Arnaud Montebourg pour les primaires. Tous les sujets démondialisation et sujets et surtout les sujets lutte contre les paradis fiscaux, l'optimisation fiscale, puisque c'était un sujet qu'Arnaud Montebourg poussait très fort à l'époque. Donc j'ai fait la campagne des primaires, puis évidemment nous sommes tous ralliés sous la candidature de François Hollande pour les présidentielles de 2012. En 2012, je suis entrée au cabinet de Fleur Pellerin, qui était ministre de l'économie numérique. Donc j'étais sa conseillère juridique et fiscale, et puis bien évidemment Je travaillais aussi sur la fiscalité avec Arnaud Montebourg, puisqu'elle était secrétaire d'État sous le ministre d'État du redressement productif. Donc voilà, ensuite j'ai fait un rapide saut comme directrice financière du CNC, et puis j'ai re-suivi Fleur Pellerin au ministère de la Culture, où là j'ai notamment travaillé beaucoup sur, l'élaboration des directives qui étaient en cours de négociation à l'époque à Bruxelles sur le droit d'auteur, le service de médias audiovisuels. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les industries numériques pendant 3 ans au ministère de la Culture et au cabinet Culture, tant et si bien que je suis devenue conseillère diplomatique d'Audrey Azoulay à la fin du quinquennat Hollande, et que j'ai notamment travaillé sur une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU sur le trafic de patrimoine en zone de guerre, sur le financement du terrorisme.
Génial.
Un G7 Culture à Florence aussi. Enfin, on avait fait pas mal de choses intéressantes, et surtout la question des fameuses directives communautaires dont on fait la transposition d'ailleurs là dans un projet de loi dédié seulement maintenant. Donc c'est vous dire le délai entre le début d'une négo et puis
l'adoption,
c'est extrêmement long.
Émilie, juste pour préciser pour les auditeurs, on est bien d'accord que Audrey Azoulay était déjà présidente de l'UNESCO quand tu as travaillé avec elle, c'est ça?
Non, elle était ministre de la Culture.
D'accord, donc c'était avant, avant l'UNESCO.
Justement, moi,
d'accord.
J'ai travaillé avec elle à cette candidature à l'UNESCO.
D'accord, pardon. Pour qu'on comprenne un peu mieux l'enchaînement. Merci.
En fait, elle a fait sa campagne pour l'UNESCO, puisque c'est un round de rencontres et de sur 6 mois quasiment pour l'UNESCO. Et moi, apparemment, je suis partie faire ma campagne des législatives. Et donc, en 2017, moi, ça faisait un moment que j'avais envie aussi de passer parce que j'avais conseillé plusieurs ministres. Et j'avais envie de m'impliquer vraiment plus politiquement. Voilà. Donc moi, j'ai rallié le projet présidentiel en 2017, qui était le projet du « en même temps » à l'époque, avec finalement l'idée de libéraliser, certes, une partie de l'économie, mais aussi de protéger nos concitoyens, et puis surtout un progressisme social et sociétal qui était attendu par tout le monde. Bon, le problème, c'est qu'au fil des mois, on s'est rendu compte que finalement, l'autre jambe, en même temps, elle était pas hypertrophiée, même à l'inverse, qu'elle était un peu oubliée. Et puis, un certain nombre de projets de loi ont fortement crispé, on va dire, l'aile gauche de ce mouvement, et notamment du groupe parlementaire, notamment les lois Collomb, la loi sécurité, un certain nombre de sujets de ce type. Bon, la réforme des retraites à ce titre a été un exemple mais catastrophique de négociations ratées, avec des personnes qui se rendaient compte qu'on leur modifiait complètement leur statut là, au détour d'un projet de texte non négocié, avec des atteintes au droit à la retraite de profession, mais dans des proportions très importantes, qu'il allait falloir faire des compensations financières énormes, notamment pour toute une catégorie de fonctionnaires, et puis aussi des atteintes, on demandait des gros efforts aux indépendants, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on leur baisse la CSG. Donc bref, à un moment donné, cet objet de la réforme des retraites qui était vraiment très large, aller demander des compensations financières dont on pouvait vraiment se poser la question de savoir si elles allaient être faites ou pas. Donc à ce moment-là, moi, j'ai commencé vraiment à m'opposer à ce qui était en train de se faire. Finalement, il y a eu le 49-3. Donc les amendements parlementaires ont été balayés d'un revers de main par le 49-3, alors que la majorité n'avait jamais finalement démérité et avait toujours trouvé des consensus avec le Parlement. Donc, généralement, quand on utilise le 49-3, c'est qu'on a un problème de fronde. Or, là, il n'y avait pas de fronde, 49-3, donc c'était vraiment complètement injustifié d'utiliser un 49-3. Et puis, suite à ça, on a eu le confinement et toute une série de textes qui étaient vraiment très limites au point de vue du respect des libertés publiques, au point de vue du respect du secret médical. Les projets de textes d'urgence ont été l'occasion de passer un certain nombre d'assouplissements du droit du travail qui n'avaient pas été négociés avec les partenaires sociaux, notamment sur le contrat de travail à durée déterminée. Bref, une multitude de textes qui nous mettaient de plus en plus en porte-à-faux. Donc, la création de ce groupe parlementaire, c'était dans les tuyaux depuis un an, on va dire. Bon, ce qui s'est passé au moment du confinement avec ces textes d'urgence vraiment qui n'étaient pas équilibrés à notre sens, ça a précipité la création de ce groupe. Donc, on l'a créé en mai, mi-mai. Et puis, voilà, on a commencé à travailler. On se rend compte que les prises de position du gouvernement ne vont pas du tout dans le sens de... Enfin, on va dans un sens d'une libéralisation, d'une dérégulation, mais jamais de la protection, ni des petites entreprises, ni de nos concitoyens. Et donc, ça, l'équilibre n'est pas là, quoi. Tout ça, ça nous a conduit au moment du discours de politique générale du Premier ministre, M. Castex, à ne pas voter la confiance au gouvernement. J'avoue que l'annonce d'un projet de loi sur les séparatismes a achevé de nous braquer contre ce gouvernement. Et donc, nous n'avons pas voté la confiance. Alors, nous ne sommes toujours pas un groupe d'opposition, on est un groupe de minorité. Ça veut dire que parfois, on vote aussi certains textes qui vont dans le bon sens. Hein. Malgré tout, les lois de finances d'urgence, on les a quand même votées cet été parce qu'on débloquait quand même des aides très importantes dedans. Mmh. Il manquait beaucoup de choses, mais on peut aussi être amené à voter contre certains textes de loi, et c'est ce qui se passera par exemple sur les néonicotinoïdes, bien évidemment.
Mais qu'est-ce qui peut, d'après toi, expliquer cette espèce de glissement idéologique qui s'est opéré au sein de La République En Marche? Est-ce que c'est effectivement ce manque d'idéologie, de structure idéologique précise qui a permis effectivement de glisser dans une direction qui ne plaisait peut-être pas à tout le monde?
Je n'ai pas répondu à ta question sur le WIP, donc je répondrai tout à l'heure. Je pense que tu soulignes exactement le problème qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, ce parti, c'est le parti présidentiel pour gagner les présidentielles, avec un programme qui était porté par les élus. Le problème, c'est que le programme, il était loin de balayer tous les champs d'action, de l'action publique et de l'action politique. Or, le parti n'a absolument pas créé de corpus idéologique ou de ligne de conduite sur tous les sujets sur lesquels on est censé s'exprimer. Ce qui veut dire qu'au fil de l'eau, les députés ont dû fonder une ligne par amendement parlementaire, par réaction par rapport à des sujets du gouvernement, mais en fait, il n'y a eu aucune ligne rouge. Donc, ce corpus idéologique dont tu parles, il n'a jamais été créé. Du coup, on a une structure complètement vide, amorphe, et du coup, on a des gens qui suivent le gouvernement au gré de ses envies. Si un jour il dit on va libéraliser, il le fait. S'il dit ah non, c'est trop libéral, il dit c'est trop libéral, mais lui n'a pas de structure. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mouvement qui a été prendre sur le centre droit et qui a été prendre une bonne partie du Parti Socialiste, il fallait bien qu'on fonde un certain nombre de lignes sur tous les sujets sociétaux, sur les sujets économiques, etc., etc., les sujets de liberté publique. Ce qui n'a pas été fait. D'où cette dérive. Alors, la dérive à droite, ça, il faut demander au président, si vous voulez. On voit bien qu'il va de plus en plus sur sa droite et que ce gouvernement, il en est finalement la traduction. Hein. Moi, je trouve que c'est un problème parce que là, aller chercher un Premier ministre, finalement, qui était dans le Parti des Républicains, la veille de son nomination en tant que Premier ministre, qui ne connaissait absolument pas les députés, d'ailleurs, il ne les connaissait même pas, il ne connaissait même pas les noms des députés de la majorité, et qui arrive pour prendre en charge cette fonction éminemment importante au sein de la Ve République. La Ve République, elle repose sur un équilibre très subtil entre le président de la République et le Premier ministre. Or, nommer quelqu'un qui n'incarne pas une ligne, puisque le type, la personne ne vient même pas du parti présidentiel, vient d'un parti d'opposition, ça veut dire qu'en fait, on donne les clés de la maison à quelqu'un qui n'incarne pas une ligne qu'on s'est choisie. Bon, donc ça, c'est un gros problème. Et je pense que là, les choix qui sont faits vont vraiment du côté droit. Donc, très honnêtement, pour moi, le déséquilibre politique, il est consumé. Je veux dire, on ne peut plus revenir en arrière. Surtout sur le poste de WIP, tu as posé la question, en fait, au sein des commissions, Chaque député est affecté à une commission parlementaire, donc les affaires éco, les lois, éducation, culture, recherche. Bon, moi, j'étais à la commission des finances. Et au sein des commissions, il y a un député qui est chargé de coordonner les prises de position de son groupe de députés. Et donc, La République En Marche appelle ça le WIP. Les autres appellent ça responsable de groupe. En gros, c'est lui qui doit coordonner donc, les prises de position. Ça veut dire que on discute en amont, il y a les amendements des parlementaires qui partent dans tous les sens. Et donc, moi, ce que j'ai fait l'année dernière sur la loi de finances, c'est que j'ai discuté avec tous les parlementaires en disant, bon, ça, c'est un amendement, oui, ok, on peut prendre ça. Ben non, là, ça ne va pas parce que ça ne marche pas, ou alors c'est trop tôt, ou il faut qu'on chiffre ça, voilà. Et on essaie de se coordonner pour après avoir des positions de vote un peu uniformes et expliquer ce qui est possible de partager avec nos collègues. Alors après, chacun fait... Le mieux, c'est quand même d'être le plus dans l'échange avec tous ses collègues. Parce que sinon, de toute façon, les députés, ils votent dans le sens qu'ils veulent, hein, je veux dire. Mais un groupe, il essaye quand même d'être coordonné le plus possible sur ses prises de position. Alors, à la République En Marche, il n'y avait pas beaucoup de démocratie dans tout ça.
J'allais justement te demander si tu faisais ça de manière totalement libre.
Alors oui, moi je l'ai fait quand même, libre. Et c'est pour ça que du coup, on a réussi à vraiment faire passer des positions intéressantes dans la dernière conférence. Je donne un exemple. L'interdiction des garanties export sur les activités de l'État sur les activités extractives, c'est passé par un amendement parlementaire parce qu'on l'a poussé, parce qu'à un moment donné, Anthony Cellier me pousse son amendement, que je le soutiens, etc., et qu'on y va.
D'accord.
Donc, voilà. Ça ne s'est pas fait sur tous les projets de texte et ça ne s'est pas fait dans toutes les commissions. Et aujourd'hui, je vois que ça n'est pas fait dans les commissions. Et moralité, on n'a pas assez d'amendements parlementaires qui passent sur les textes. Le gouvernement, lui, il donne une vision qui est souvent une vision de l'administration. Et sauf que ce n'est pas forcément une vision politique plus juste. Quoi. Donc, c'est à ça que sert le WIP.
Et donc, conclusion un peu de toute cette histoire, tu ne regrettes pas d'être partie?
Alors, non, je ne regrette pas du tout d'être partie. là, moi, je suis dans un groupe parlementaire qui reflète bien, finalement, mes valeurs. Quoi. Ça, c'est sûr. On est dans un groupe qui du coup là a un fonctionnement très démocratique. On discute beaucoup de nos lignes et de nos positions à tenir sur les projets de texte. Donc moi je suis déléguée générale du groupe en charge des politiques publiques. Donc c'est moi qui suis chargée de coordonner ça pour le groupe EDS. Donc on essaie de discuter entre nous parce que bien évidemment les députés se spécialisent sur des sujets, donc certains députés sont à la pointe sur tel ou tel sujet, donc ils partagent ton expérience avec les autres députés et puis on essaie d'expliquer à nos collègues pourquoi c'est bien d'aller dans tel ou tel sens, et chacun des députés EDS a sa spécialité. On est quand même un groupe où les gens sont très investis et très dynamiques, on est un petit groupe parlementaire mais très actif, et donc du coup on se détermine sur nos positions. Après, si quelqu'un ne veut pas voter dans le sens du groupe, de la majorité du groupe, il le fait. On a décidé de jamais porter ombrage, que toutes les positions sont légitimes. Et à ce moment-là, même souvent, on l'explique dans les explications de vote. On dit, la majorité du groupe DS votera dans tel sens, à part monsieur machin, madame Bidule, pour telle et telle raison.
D'accord.
Donc, on est très... Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord sur un texte, par exemple, sur Stop Covid. Notre groupe, nous, on a voté. Moi, je n'étais pas favorable à Stop Covid. Cédric Villani, il était favorable à Stop Covid. Il l'a dit, mon tact.
Qu'est-ce que tu penses de l'avenir politique d'En Marche?
Moi, je suis... franchement, j'ai l'impression de voir une espèce de déliquescence au quotidien. Là, je vois que Pierre Pierson, il a démissionné de son poste de numéro 2. Je vois Marie Guévenou qui arrive à sa place. Très bien. Marie Guévenou, on sait très bien que c'est les sphères droites qui reviennent en force, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'En Marche est en train de devenir le nouveau parti de droite. D'aucuns me diront, mais pourquoi tu dis nouveau? Ils ont toujours été comme ça. Moi, je pense que non, à la base. Et d'ailleurs, on était très nombreux à venir
du Parti socialiste.
On était plutôt avec une base social-démocrate large. Là, aujourd'hui, on est sur une droitisation, notamment les lois de dérégulation. On a aussi un vocabulaire qui s'est fortement durci sur les sujets immigration, que le président n'avait pas dans son campagne des présidentielles. On était plutôt sur une notion assez souple de l'immigration et notamment du droit à bien travailler en France, etc. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce discours ouvert. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la France, elle fonctionne aussi avec, avec ces travailleurs-là. Donc, je trouve que c'est vraiment une hypocrisie totale, mais c'est vraiment, là, adopter une ligne droitière. Tout comme quand on parle de sauvagement, bien évidemment, on prend une terminologie très droitière.
Qui n'est pas neutre.
De délinquance et de traitement de la délinquance. Voilà.
Bien sûr.
Donc, chaque jour, je vois des collègues qui sont désabusés. Et bon, écoutez, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités.
Nous, on les appuie. Est-ce que tu...
C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'est plus dans une majorité. On travaille beaucoup. C'est difficile de faire passer les amendements. Parfois, on y parvient, mais c'est quand même très compliqué. Et on n'a pas du tout les moyens aussi en termes de collaborateurs et tout ça. Donc, être dans une minorité, bon, bah, voilà, c'est plus dur. Mais en tous les cas, c'est très motivant.
Oui, j'imagine. Est-ce que tu as été surprise de voir des personnalités qui ont vraisemblablement une sensibilité plutôt marquée à gauche, je pense surtout à Barbara Pompili, rejoindre le gouvernement Castex?
La position de Barbara Pompili depuis le début, c'est de dire « je veux peser de l'intérieur ». Voilà. Ouais. Moi aussi, c'était ma position, hein, très clairement. Quand j'agis sur la fraude fiscale, quand je fais passer un amendement parlementaire sous le verrou contre l'avis du gouvernement, à l'époque, quand même, le gouvernement n'était pas favorable à ça, c'est bien que j'essaie de travailler en interne et de peser à l'intérieur. Sauf qu'à un moment donné, quand on voit que finalement, cette stratégie ne marche plus, que le gouvernement essaie de passer en force tous les sujets, on peut se poser la question de l'efficacité d'une telle stratégie. Donc, elle a souhaité faire ça. Moi, je constate que ça faisait même pas un mois qu'elle est au gouvernement, qu'elle se prend un grave recul en matière environnementale sur les néonicotinoïdes, annoncé par le ministre de l'Agriculture. Je trouve que c'est quand même c'est un peu dur, quoi.
Donc, oui, ça ne doit pas être facile, en effet.
Je crains qu'elle ait des difficultés au sein de ce gouvernement. On l'a vu aussi durant l'été, sur la dernière loi de finances d'urgence qu'on a passée en juillet, où nous, on demandait un certain nombre de mesures dites d'éco-conditionnalité aux aides, c'est de faire en sorte que quand on verse notamment des masses d'argent public assez importantes avec nos entreprises, au moins elles aient une démarche de transition écologique en termes de carbone, etc. Et qu'au final, tout ça a été balayé d'un revers de la main, y compris les amendements finalement les moins engageants, comme demander l'avis du Haut Conseil pour le climat sur les engagements d'éco-conditionnalité des entreprises. Même ça, ça a été refusé. Donc, je me demande finalement si elle va réussir à peser. Moi, je ne mets pas du tout en cause son engagement en matière d'écologie. J'ai eu à travailler avec elle sur les sujets nucléaires parce que moi, je me suis beaucoup investie dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les sujets notamment nucléaires. J'ai été membre de la mission d'information sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Et je suis rapporteur du plan national de gestion des déchets et des matières radioactives. Donc, j'ai pu travailler avec Barbara. Et d'ailleurs, on a signé une multitude d'amendements en commun, y compris avec Cédric Villani, qui est le président de l'OPEX côté... le premier VP d'OPEX, qui repasse président d'OPEX côté Assemblée, et d'amendements et de courriers sur ces sujets, notamment nucléaires. Donc... Je connais son engagement et sa sincérité dans son engagement. Après, est-ce que réellement elle aura du poids au sein de ce gouvernement qui aujourd'hui ne pense plus qu'à faire des mesures de compétitivité au mépris de certaines normes environnementales ? Et je le dis parce que l'année dernière, on a quand même fait passer un texte qui dit que le préfet peut donner des autorisations de construction d'installations industrielles dangereuses avant les autorisations environnementales. Ça aussi, je veux dire, on a tout un titre d'une loi qui allège les obligations environnementales et c'est Mme Pannier-Runacher qui vient en discuter au Parlement, qui vient devant la représentation nationale et ce n'est pas Barbara Pompili. Vous voyez bien que là, c'est pas possible.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bien, Émilie, je crois que nous arrivons à bout de cette interview qui est déjà très dense. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure ce moment ensemble ?
Oui, moi je trouve qu'on est dans un débat public qui se durcit beaucoup ces derniers temps. Quand je vois notamment les propos aujourd'hui autour des sujets du voile, etc. Quand je vois qu'une parlementaire s'est permis d'exclure une représentante syndicale au prétexte qu'elle était voilée, alors qu'elle venait parler de la précarité des étudiants, ce qui n'avait rien à voir avec un acte de prosélytisme religieux, je suis très inquiète sur l'affaiblissement de notre état de droit. Et finalement, de nos principes fondamentaux qui fondent notre démocratie, et notamment tout ce qui a trait à la liberté de conscience, à la tolérance. Une société, elle ne peut pas être uniforme et il faut intégrer dans notre République tous les éléments qui la composent. Et ça, c'est aussi faire preuve de tolérance et bien évidemment apporter la République partout, dans tous les quartiers, auprès de tous nos jeunes, parce que je pense que bon nombre de nos problèmes proviennent avant tout des sujets et des problèmes d'inégalité au sein de notre population. Et j'ai l'impression qu'on balaye tout ça pour polariser sur des sujets extrêmement polarisés qui ne font que scléroser la société et finalement créer de la rupture au sein de notre société française.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup pour cette interview qui a beaucoup plu. On me l'a écrit dans le chat. Donc, super. On espère peut-être recevoir à nouveau bientôt. Et cette interview sera transformée en podcast si tout va bien. Comme ça, les gens qui n'ont pas pu l'écouter maintenant ou qui n'ont pas pu l'écouter dans son intégralité pourront la retrouver. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très belle soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt.
Au revoir, Léa.
Au revoir, merci.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.